de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, cher Jolitar, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre de la Défense ajoute 9 avions pour TNI. Le président de la Commission électorale générale a exprimé ses remerciements pour le soutien au premier débat des candidats à la présidentielle de 2024. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministère indonésien de la Défense a de nouveau augmenté la puissance du système d'armes principales des forces armées nationales indonésiennes via l'achat de 9 avions NC-212I. Au cours de la première phase, 5 avions ont été livrés et les autres sont prévus pour l'année prochaine. La remise de ces 5 avions a été effectuée par le ministre indonésien de la Défense Prabowo Subianto à la base aérienne Halim Perdana Kusuma mardi 12 décembre 2023. Prabowo a symboliquement remis les clés de l'avion du chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air indonésienne, le maréchal TNI Gustav Brugman. Dans son discours, Prabowo s'est dit fier parce que cet avion était un produit de l'industrie de défense nationale. Il espère que cet avion pourra encourager la croissance économique nationale et faire progresser l'industrie de défense nationale.
Dan kita berharap industri pertahanan kita akan terus meningkat sampai dengan memproduksi pesawat-pesawat tempur.
Et nous espérons que notre industrie de défense continuera à s'améliorer au point de produire des avions de combat de fabrication artisanale. L'industrie de défense est absolument nécessaire pour un pays qui veut souverain et indépendant. Une force aérienne forte est une condition nécessaire pour un pays moderne qui veut être indépendant et souverain. L'avion NC-212I est une variante de l'avion NC-212 entièrement fabriqué par PT Dirgantara Indonesia. Cet avion peut atterrir sur une piste de 600 mètres de long, en herbe ou en sable, et peut être utilisé pour diverses opérations. Les 5 avions renforceront Air Squadron 4, Air Wing 2, donc le siège est à la base aérienne Abdurrahman Saleh à Malang dans l'est de Java. Le président de la Commission électorale générale Hashim Ashari, dans ses remarques lors du débat inaugural des candidats à la présidentielle indonésienne de 2024 mardi soir à Jakarta, a exprimé sa gratitude pour le soutien de tous les partis qui ont soutenu la mise en œuvre de cette activité. Il espère que chaque paire de candidats pourra utiliser ce débat pour transmettre sa vision, sa mission et ses programmes qui peuvent convaincre les électeurs de faire leur choix. À cette occasion, la Commission électorale générale a exprimé ses remerciements pour le soutien de tous les partis afin que le premier débat puisse avoir lieu ce soir. Et bien sûr, nous nous excusons s'il y a des choses désagréables. Le débat inaugural des candidats à la présidence a porté mardi sur des questions de gouvernement, de droits de l'homme, l'éradication de la corruption, le renforcement de la démocratie ainsi que d'amélioration des services publics et de l'harmonie civique. Ce débat a réuni tous les couples de candidats, à savoir Anies Baswedan et Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka, ainsi que Ganjar Pranowo et Mahfud MD. Le prochain débat est le débat des candidats à la vice-présidence qui devrait avoir lieu le 22 décembre avec des discussions sur l'économie, les finances, l'investissement, les impôts, le commerce, la question de APBN, de APBD et les infrastructures. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. En commémoration de la 75e Déclaration universelle des droits de l'homme au siège de l'ONU à Genève en Suisse, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré qu'en tant que candidat élu au poste de membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Indonésie a réaffirmé son soutien à la Palestine. Cela inclut l'augmentation des contributions de l'Office de sécurité et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 3 fois. En outre, cité dans une déclaration officielle reçue à Jakarta mardi, la ministre Retno Marsudi a transmis l'engagement de l'Indonésie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Pour cette raison, selon lui, l'Indonésie continue de déployer des efforts pour que la ratification puisse être réalisée dans son intégralité. Selon lui, si la Convention a été ratifiée, cela signifie que l'Indonésie a ratifié tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également déclaré que l'Indonésie s'engageait également à protéger et respecter les droits de personnes handicapées, notamment en renforçant le rôle de la Commission nationale sur handicap. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, pour discuter de la question des réfugiés rohingyas entrant sur le territoire indonésien. Lors d'une réunion qui a eu lieu à Genève en Suisse lundi, Retno Marsudi a souligné les défis auxquels l'Indonésie est actuellement confrontée avec l'afflux des réfugiés rohingyas. La ministre Retno, dans un communiqué de presse en ligne mercredi, a déclaré qu'il y avait de fortes allégations de problèmes de contrebande et de traite des êtres humains. Au cours de la conversation en tête-à-tête qui s'est déroulée très ouvertement, Retno Marsudi a déclaré que Grandi comprenait vraiment les défis auxquels l'Indonésie était confrontée. Grandi a promis que le HCR ferait de son mieux pour aider à résoudre ce problème, notamment en fournissant une assistance pour soutenir la vie de ces réfugiés. Le nombre de réfugiés rohingyas entrant sur le territoire indonésien est en augmentation. Le HCR indique que plus de 1200 Rohingyas ont atterri en Indonésie depuis novembre 2023. Donc, au moins 300 sont arrivés à Aceh la semaine dernière. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative se concentre sur le développement de destinations touristiques basées sur le tourisme vert en 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, dans la ville de Bandung, Jawa West, a déclaré mardi que ce tourisme environnemental créer des opportunités d'emploi et avoir un impact social sur les communautés de chaque région. En outre, il a déclaré qu'actuellement l'Indonésie était confrontée à une triple situation de crise planétaire ou à la menace du changement climatique, de l'augmentation de la pollution et de la perte de la biodiversité. Par conséquent, son parti continue d'encourager les districts ou villes à développer un tourisme vert avec une bonne planification spatiale qui préserve la durabilité environnementale. En outre, il a déclaré qu'avec ses diverses ressources naturelles potentielles et sa diversité culturelle, l'Indonésie dispose d'un fort potentiel pour développer le tourisme vert utilisant les énergies renouvelables. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique, intitulée Le consulat général d'Indonésie à Guangzhou organise le 3e festival des arts culturels d'Angklung. Le consulat général de la République d'Indonésie à Guangzhou, en collaboration avec le parc des oiseaux Nansa et avec le soutien du Bureau de tourisme, de la culture, de la télévision et de la radio du district de Nansa, a organisé dimanche le 3e Festival des arts culturels d'Angklung au parc des oiseaux Nansa Guangzhou, la Chine. Ce festival a réuni des responsables de Nansa, des universitaires, des artistes, des communautés locales et des étudiants indonésiens de diverses universités du sud de la Chine. Dans son discours au nom du consul général de la République d'Indonésie, le consul pour l'information et les affaires sociales, Christine Agustina Siregar, a déclaré que le festival d'Angklung présente la beauté du bambou avec faisant partie du patrimoine culturel indonésien. L'Angklung a été déclaré chef d'œuvre du patrimoine culturel oral et immatériel humain par l'UNESCO en 2010. Le jeu de l'enclume contient des valeurs, à savoir la coopération, la coordination, le respect mutuel et l'harmonie sociale. Enclume est aussi un moyen de renforcer les relations entre les individus ou bien relations de personne à personne. Le vice-président du comité directeur de l'Assemblée populaire du district de Nansa a déclaré son soutien à l'augmentation de la coopération culturelle et artistique avec les pays situés autour de la ceinture et la route, en donnant la priorité à l'esprit de compréhension mutuelle et d'apprentissage mutuel. Le troisième festival des arts culturels d'Anglong a été rempli de performances d'étudiants de l'Université des arts de Guangxi. Ils ont joué plusieurs chansons traditionnelles indonésiennes telles que Warung Pocok, Peuyem Bandung, Yamko Rambi Yamko et Ayam Den Lape. Ils ont également exécuté des danses traditionnelles balinaises et de Sumatra occidentale. Il y a eu également des représentations Anglong de Ayo Mama et Bengawan Solo par d'anciens immigrants chinois de Haiku, Hainan, donc la plupart étaient des personnes âgées. La collaboration entre le Consulat général d'Indonésie à Guangzhou et le Bureau du tourisme, de la culture, de la télévision et de la radio du district de Nansa et le parc ornithologique de Nansa pour promouvoir la culture indonésienne et entrer dans sa troisième année. Le parc des oiseaux Nansa est le seul endroit en Chine qui possède un pavillon indonésien, un bâtiment en bambou, donc les matériaux et les artisans sont tous importés de l'Indonésie. L'Université des arts de Guangxi, dans le cadre de cette activité, supervise le Musée national de la musique ethnique de Guangxi, le premier musée dédié à la musique de Guangxi et le premier musée de la musique ethnique en Chine. Cette institution organise activement diverses conférences qui non seulement promeuvent et préservent les traditions culturelles, musicales, ethniques de Guangxi, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, y compris la musique indonésienne, telle que Angklung. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 décembre. On commence par le 13 décembre 1945, le massacre des habitants de Tebing Tinggi par des soldats japonais. La défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale devient l'occasion de la proclamation de l'indépendance indonésienne le 17 août 1945. Cette situation donne alors naissance à des tensions entre l'armée japonaise et le peuple indonésien à Tebing Tinggi, Sumatra. Le Japon et le gouvernement de Tebing Tinggi ont mené des négociations, mais n'ont pas produit de résultats. Le 13 décembre 1945, les troupes japonaises ont encerclé la ville de Tebing Tinggi et ont ensuite procédé au massacre de tous les habitants de Tebing Tinggi qu'elles ont rencontrés ce jour-là. Le massacre a fait environ 2000 morts parmi les habitants de Tebing Tinggi. Le 13 décembre, la journée de Nusantara. L'histoire de la journée de Nusantara commence avec la naissance de la déclaration de Juanda le 13 décembre 1957 qui a été initiée par le premier ministre indonésien de l'époque, Juanda Kartawijaya. La déclaration de Juanda a déclaré au monde que les mers indonésiennes incluent les mers autour, entre et à l'intérieur de l'archipel indonésien comme une seule unité territoriale de la République d'Indonésie, ce n'est pas une zone franche. Cette déclaration a été acceptée et stipulée en 1982 dans la troisième Convention des droits maritimes des Nations Unies de 1982 ou UNCLOS 1982. En outre, cette déclaration a été réaffirmée par la loi numéro 17 de 1985 concernant la ratification de UNCLOS 1982 selon laquelle l'Indonésie est un État archipélagique. Le 11 décembre 2001, le président de la République d'Indonésie, Megawati Sukarnoputri, a publié le décret présidentiel numéro 126 de 2001 qui a désigné le 13 décembre comme la journée de Nusantara. Le 13 décembre 2003, on a arrêté l'ancien président irakien Saddam Hussein. Saddam Hussein a été président de l'Irak du 16 juillet 1979 au 9 avril 2003. Saddam Hussein a été renversé lors de l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003. Il a été capturé alors qu'il se cachait le 13 décembre 2003. Le 5 novembre 2006, il a été condamné à mort par pendu. L'exécution effectuée le 30 décembre 2006. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Rasa rindu ini untuk selamanya.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Mon Indonésie ». Cette fois, nous allons vous présenter « L'Indonésie dispose d'un grand capital pour atteindre l'Indonésie dorée 2045 ». L'Indonésie dispose d'un grand capital pour réaliser la vision d'une Indonésie dorée 2045 avec une forte résilience économique dans une situation mondiale pleine d'incertitudes. La croissance économique de l'Indonésie est revenue au niveau d'avant COVID-19 d'environ 5% pendant 8 trimestres consécutifs et l'une des meilleures du monde. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur des affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, lors de l'événement Econ Goes to Campus à Bandar Lampung lundi. Le ministre coordinateur Erlangga a déclaré que 2045 serait un élan précieux pour l'Indonésie parce qu'elle obtiendrait une fenêtre d'opportunité pour un bonus démographique qui ne se produit qu'une seule fois dans la civilisation d'une nation. La réussite de l'utilisation de cet élan aidera également l'Indonésie à sortir du pays à revenu intermédiaire et à devenir un pays à revenu élevé. Dans son discours d'ouverture, le ministre coordinateur Erlangga a déclaré que le gouvernement indonésien encourage actuellement l'optimisation en aval soutenue par le potentiel des abondantes ressources naturelles de l'Indonésie, telles que l'agriculture et les minéraux. En outre, le gouvernement a publié le règlement gouvernemental numéro 36 de 2023 concernant les défis de recettes d'exportation afin d'exécuter le mandat de l'article 33 de la Constitution de 1945 où la terre, l'eau et les ressources naturelles qu'elles contiennent sont contrôlées par l'État et utilisées autant que possible pour la prospérité du peuple. Lors de l'événement Econ Goes to Campus auquel ont participé 400 étudiants en sciences politiques de 28 universités de toute l'Indonésie, le ministre coordinateur Erlangga a également expliqué plusieurs réalisations du gouvernement indonésien face à des conditions d'incertitude mondiale, telles que le succès dans la gestion du COVID-19 et le succès dans la présidence indonésienne du G20, l'APEC et la présidence de l'ASEAN 2023. Selon le ministre coordinateur Erlangga, cela doit être continué parce qu'il est lié aux sociopolitiques et les relations internationales qui sont actuellement concentrées sur la politique économique. Le ministre Erlangga a ajouté qu'en organisant l'activité Econ Goes to Campus, le ministère coordinateur des affaires économiques déploie des efforts constants pour diffuser diverses politiques gouvernementales afin que la compréhension du public, notamment de la jeune génération, augmente, y compris en ce qui concerne l'utilisation du bonus démographique. Dans cette activité interactive, le ministre Erlangga espère que les étudiants joueront un rôle dans le soutien à la réalisation de l'Indonésie dorée 2045 et offrir à la jeune génération d'aujourd'hui la possibilité de diriger et de soutenir le rôle actif de l'Indonésie sur la scène mondiale pour lutter pour les intérêts nationaux au cours des 20 prochaines années. Chers amis, c'est la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, la plage de Karang Jahe est une attraction touristique naturelle sous la forme d'une plage de sable blanc située au village de Punjul Harjo, au district de Rembang, à la région de Rembang, aux provinces de Java Central en Indonésie. Cette plage s'étend sur 3 km et est unique en ce sens qu'elle abrite de nombreux petits coraux en forme de gingembre, dont le nom de plage est la plage Karang Jahe et des rangées de pins. Cette plage a du sable blanc et des vagues calmes. Elle propose donc diverses activités de plage intéressantes, telles que jouer dans le sable et jouer sur des bateaux gonflables. L'attrait de la plage de Karandjahé, entre autres, c'est que l'on peut profiter d'un beau panorama sur la mer bleue parce que la plage est en pente. De plus, lorsque vous venez l'après-midi, vous pourrez profiter du magnifique coucher de soleil. En plus de bronzer sur la plage en pente, qui est généralement une caractéristique des activités de plage, sur la plage de Karandjahé, vous pouvez également jouer au VTT tout en regardant les rangées de pins qui pousse le long de la côte sur une longueur estimée à 1 km. Dans cette zone de plage, il existe de nombreux spots photo intéressants qui peuvent être utilisés comme arrière-plan photo. Une inspiration qui peut être utilisée en option est de prendre une photo sur les pins qui bordent la plage. Vous pouvez également profiter de la brise marine et admirer la plage depuis le bord de mer en voyageant en bateau à moteur loué jusqu'à l'île de Karang. La durée du trajet aller-retour est d'environ 20 minutes. Si vous voulez profiter plus longtemps de la brise marine, vous pouvez prendre un bateau à moteur jusqu'à l'île de Gosong pour un temps de trajet d'environ 30 minutes. Il existe également des petits bateaux gonflables équipés de pagaies et des bateaux bananes pour faire le tour de la plage. L'eau de mer de cette plage est assez claire et propre. Elle soutient donc vraiment les activités des visiteurs qui souhaitent nager au bord de la plage. Autour de la plage de Karandjahé, il y a de nombreux kiosques soigneusement aménagés et vous pourrez vous détendre et profiter de la plage depuis le kiosque. Si vous avez faim, vous n'aurez aucune difficulté à trouver les aliments et la boisson, car dans cette zone se trouvent des stands de nourriture et des vendeurs ambulants. De même, si vous souhaitez passer la nuit, vous n'avez pas besoin d'apporter une tente ou un sac de couchage, car la région de la Régence de Rambang propose de nombreux hébergements à seulement 20 minutes, parce que la plage ne propose pas encore d'installation de nuit. Tout cela peut être surmonté car l'emplacement de la plage est assez facile à trouver car elle passe par la route nationale menant à la côte nord de Semarang-Surabaya, précisément entre les villes de Lasem et Rembang.
Changer tard, c'était la belle chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de vlog de Chris, lors d'un voyage du lac Singkarak au lac Meninjau. Sortauli a informé Chris qu'ils étaient à mi-chemin du lac Singkarak au lac Meninjau. Bon, écoute.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions, des phrases et des mots liés au sujet d'aujourd'hui intitulé Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan. Nous sommes déjà à mi-chemin. Kita. Kita, nous. Sudah, sudah, déjà. Separuh, separuh, mi. Perjalanan, perjalanan, chemin. Sampai mana, jusqu'à où? Apakah, apakah, est-ce que? Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu l'expression Kita sudah separuh jalan. Kita sudah separuh jalan. En français, nous sommes déjà à mi-chemin. Dans ce discours, il y a le mot separuh. Separuh, mi. Le mot separuh, separuh, mi signifie moitié. Dans ce discours, l'expression separuh perjalanan, mi-chemin, est utilisée pour exprimer la distance parcourue à la moitié du trajet. Chers amis, allez écouter un exemple d'utilisation de mots separuh, separuh, mi dans une autre phrase. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. J'ai mangé la moitié du riz dans l'assiette. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. Chris a terminé la moitié de la portion de poisson bilih frit. Chers amis, kelok 44 ou kelok 44 est une route sinueuse entre le lac Singkarak et le lac Meninjau. Chaque virage a un angle très aigu, entre 45 et 65 degrés. Le virage 44 était autrefois le parcours de la course cycliste internationale Tour de Singkarak. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bon écoute.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition de Prendre l'Indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau. Ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Voice of Indonesia.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku. Ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita. Saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka.
Yang selalu
punya pendapat berbeda. Kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Danila,
ada mereka bersuara. Telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita.
Kita bersama tercipta
Soir, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
La voix de l'Indonésie au monde. Chers auditeurs, je vais vous présenter une chanson de Lampung, à savoir Tanoh Lado. La chanson Tanoh Lado a été composée par Fat Shahpurin et popularisée par Andy Ahmad. Les paroles parlent de la richesse de Lampung. Les paroles de la chanson Tanoh Lado indiquent que le poivre est la principale production de Lampung. En dehors de cela, Lampung a également de nombreuses coutumes et langues. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Tanoh Lado de Andy Ahmad. Bonne écoute!
Teladas Japalas munggah di bengkunan Gunung rimba tiupu matang Pulau-pulau di laut lepas Panjawa wadi Nusantara Kami tuku saling jajepi Tano Lampungku, Tano Lada Merga buai rebahasa Tanda rangkaian adat budaya surat ni kagama jadi warisan jama-jama.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.